Bonjour, bienvenue à tous en ce mois de mai 2020. C'est une nouvelle fois une émission bien particulière que nous avons réalisée pour vous, enregistrée par chacun du groupe Génération avec ses propres moyens depuis son lieu de confinement. C'est une émission balade que nous avons imaginée ensemble pour cette période historique. Nous avions envie de nous offrir et de vous offrir des grands espaces, de la pleine nature, de la poésie, pour s'ouvrir au-delà des espaces fermés, avec des lectures, des films, des astuces, des découvertes incroyables et des témoignages. Margaret, Martine, Christiane, Josie, Christine, Jacques et Isabelle vous souhaitent une belle écoute, car nous sommes ensemble malgré tout et reliés sur les ondes de la Save. Embarquement immédiat pour une échappée poétique offerte par Christiane grâce à la touchante combinaison d'un texte d'André Chédid sur une musique de son petit-fils, Mathieu.
J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits. Des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent entre ombres et barbaries. Des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance dans le terreau du cœur. J'adopte toute l'espérance en son esprit frondeur.
J'entends dans ta cora parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère. Au-delà des désastres de nos biographies, au-dessus des murailles de nos fausses vies.
Texte dans ma vie.
Le mot confinement amène des images restrictives d'espace. Pour conjurer cette sensation, j'ai replongé dans la lecture de Starlight de Richard Wagamese, écrivain canadien d'origine indienne de la tribu des Ojibwés. Une découverte de soi-même à travers l'approche de la vie naturelle. En voici un tout petit bout. Sa respiration devint si discrète qu'elle avait l'impression d'absorber l'air par la peau. Elle ouvrit grand les bras de part et d'autre de son corps, écarta les doigts et se concentra sur la biche qui se tenait tête baissée vers l'herbe, insouciante. Les feuilles bruissaient dans la brise, un oiseau gazouilla. Un mulot tressauta dans l'herbe sèche. Une couleuvre pointa la tête derrière une pierre plate, puis rampa jusqu'à sa surface où elle s'installa dans la chaleur du soleil. Elle dépassa le serpent qui ne bougea pas. Elle percevait la texture du sol sous la plante de ses pieds, les déroulant vers l'intérieur, comme il le lui avait enseigné, et elle laissait les sensations guider le placement de chacun de ses pas. Elle n'avait pas besoin de regarder le sol. Par contre, elle gardait les bras grands ouverts et avançait lentement vers la biche. La distance se réduisait. Plus elle se rapprochait, plus elle commençait à être énervée. Elle dut s'arrêter pour maintenir sa posture, se calmer, respirer, se concentrer sur sa perception de la terre, faire profondément entrer en elle le calme environnant, puis de nouveau avancer furtivement avec précaution. La biche s'enfonça plus avant dans la clairière, s'arrêtant pour grignoter des feuilles de saule. Amy faisait un pas quand l'animal en faisait un. Sa traque était tellement circonspecte qu'elle avait l'impression de léviter au-dessus du sol, les bras tendus comme des ailes. Il n'y avait que la lumière à présent, voilée, étouffée. L'ombre se faufilait dans l'étendue d'herbe. Elle respira et allongea davantage le bras pour sentir la lumière sur sa peau, soyeuse, ténue, fragile, et s'obligea à faire des mouvements encore plus petits afin de ne pas briser ce moment. Chaque pas semblait prendre des minutes. Son corps était en apesanteur. Elle avançait délicatement et la biche continuait à brouter. Sa queue remuait doucement.
En cette période, côté habillement, certains accessoires sont indispensables ou tout au moins recommandés. Les masques et aussi les gants. Autant optimiser leur usage. Voici la petite astuce de Josie.
Je pense aux gants et j'ai une astuce pour ouvrir les bocaux. Vous avez un bocal dont l'ouverture résiste, pas de panique. Si le fait de taper le fond du bocal énergiquement avec la paume de la main ne suffit pas, mettez des gants en caoutchouc. Vous aurez à coup sûr une meilleure prise.
Allô? Comment ça se passe le confinement pour vous?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais revenir sur cette période si particulière et inattendue que nous venons de vivre, le confinement. Qui aurait imaginé qu'un jour, nous soyons tous ensemble privés de liberté de mouvement et que de nombreux êtres humains sur cette planète en soient aussi privés? Et tout ça à cause d'une petite bestiole encore inconnue il y a quelques mois, le Covid-19. Cette crise sanitaire a généré de belles actions dont nous avons été les témoins, ou même parfois les acteurs. Ce qu'il faudra, je crois, retenir de cette crise, c'est vraiment la part lumineuse de l'être humain, le courage et la ténacité des soignants, le dévouement et l'engagement de tous ceux qui se sont exposés pour ne pas rompre la chaîne alimentaire, pour maintenir l'hygiène, pour assurer notre sécurité, pour s'occuper des plus fragiles isolés chez eux. Et tout ça afin que nous puissions continuer à vivre dans les meilleures conditions possibles. Et puis il y a aussi les bénévoles, ceux qui ont fabriqué des masques, des visières, des surblouses, ceux qui se sont engagés auprès d'associations pour aider les plus démunis et les plus fragiles. Les restaurateurs qui, sans clients, sont quand même restés derrière les fourneaux pour concocter des petits plats pour réconforter les soignants ou les aînés restés chez eux. Eh bien moi, tout ça, toute cette solidarité, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Personnellement, je vis dans la grande ville, sur un grand boulevard. Et pour la première fois, je dis bien pour la première fois, j'ai pu bouquiner sur mon balcon. Chose habituellement impossible avec le bruit de la circulation et la pollution. Seule chez moi, je ne me suis jamais sentie aussi proche de mes amis et de ma famille. Grâce aux moyens de communication, j'ai pu, quand c'était nécessaire, soutenir les plus inquiets, mais aussi partager des moments festifs en visio. Des amis m'ont confectionné des masques, Valentina, une jeune étudiante du quartier, est allée faire des courses pour moi. Le soir, je me retrouvais à la fenêtre avec des voisins avec qui je n'avais jamais parlé pour applaudir tous ceux qui œuvraient pour nous. Finalement, mais quelle belle aventure ce confinement! Alors j'ai eu envie de savoir comment cela s'était passé ailleurs, dans d'autres pays.
Je m'appelle Jenny et j'habite au sud-est d'Angleterre, près de la mer, avec mon mari Ian et notre chien Lola. Ici, c'est la 7e semaine de confinement et dans quelques jours, Boris Johnson va nous diriger vers un « new normal ». Il y en a beaucoup qui espèrent qu'encore une fois, on peut être réunis avec nos familles. Pour nous, la vie est tranquille et calme, entourée par des champs derrière la maison. Et avec la route de la mer beaucoup plus tranquille devant, nous profitons du chant des oiseaux épiques, les visites régulières des faisans, canards et surfs moonjack. Nous pourrons balader dehors en famille ou pour faire de l'exercice pour une heure. C'est une des meilleures parts de la journée. Pour la plupart, nous allons à la plage où il n'y a presque personne. Hier soir, la marée basse, pas de vent, un ciel bleu, c'était magnifique. De plus en plus, on a le temps de trouver la joie dans la nature.
Un texte dans ma vie. J'ai étudié la gloire de mon père de Marcel Pagnol à l'école. Marcel Pagnol partage des expériences de son enfance à Marseille, sa famille, sa vie d'écolier et ses vacances avec nous. J'ai pu me laisser emporter par l'histoire sans problème. J'aime les livres qui me permettent de visualiser le récit. Pour moi, à l'époque, c'était une bonne introduction à la littérature française et j'ai pu, par la suite, explorer les autres œuvres du même auteur. Marcel Pagnol est né à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, en 1895 et est décédé à Paris en 1974. Ses œuvres, d'ailleurs, racontent la vie dans le sud de la France. Il devient célèbre en 1929 avec sa pièce de théâtre « Marius » et écrit par la suite des films comme « La femme du boulanger ». Il est élu à l'Académie française en 1946, mais 10 ans plus tard, il s'éloigne du théâtre et du cinéma pour écrire, cette fois-ci sous forme de livre, ses souvenirs de l'enfance, en commençant avec « La gloire de mon père », l'histoire autobiographique de sa vie aux yeux de l'enfant qu'il était. Sa famille, son école et la grande aventure et ses expériences pendant ses vacances qui ont procuré des moments forts en émotion, des moments de joie, de peur,
des instants qui ont même parfois laissé ce petit garçon intrigué.
Nous sortîmes du village, alors commença la féerie, et je sentis naître un amour qui devait durer toute ma vie. Un immense paysage en demi-cercle montait devant moi jusqu'au ciel. De noires pinèdes séparées par des vallons allaient mourir comme des vagues au pied de trois sommets rocheux. Autour de nous, des croupes de collines plus basses accompagnaient notre chemin qui serpentait sur une crête entre deux vallons. Un grand oiseau noir, immobile, marquait le milieu du ciel. Et de toutes parts, comme d'une mer de musique, montait la rumeur cuivrée des cigales. Elles étaient pressées de vivre et savaient que la mort viendrait avec le soir. Le paysan nous montra les sommets qui soutenaient le ciel au fond du paysage. À gauche, dans le soleil couchant, un gros piton blanc étincelait au bout d'un énorme cône rougeâtre.
Celui-là, c'est Tête Rouge.
Et à droite, brillait un pic bleuté, un peu plus haut que le premier. Il était fait de trois terrasses concentriques qui s'élargissaient en descendant comme trois volants de la pèlerine de fourrure de Mademoiselle Guémard.
Celui-là, c'est le Tahoumé.
Puis, pendant que nous admirions cette masse, il ajouta
« On lui dit aussi le tube. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda mon père. « Ça veut dire que ça s'appelle le tube ou bien le Tahoumé. » Mais quelle est l'origine de ces mots? L'origine, c'est qu'il a deux noms, mais personne ne sait pourquoi. Vous aussi, vous avez deux noms, et moi aussi.
Et pour clore la rubrique, si le livre « La gloire de mon père » est paru en 1957, le film est sorti en 1990. Écoutons la bande originale du film. Nous voilà déjà en vacances à Aubagne.
Beau texte et pour cette bande-son du film La gloire de mon père. Quelle meilleure transition pour notre rubrique cinéma! Ce mois-ci, nous mettons à l'honneur la nature sous toutes ses formes, dans ce qu'elle a de plus intime ou de plus majestueux. Pour commencer, nous restons en France pour flâner avec le film de Bruno Podalydès de 2015, Comme un avion. Michel traverse une crise de la cinquantaine. Passionné par l'aéropostale, il s'aperçoit un jour qu'un kayak ressemble au fuselage d'un avion. J'aime l'humour décalé, alors là, ça commence bien. En cachette, il achète un kayak à monter soi-même et tout le matériel qui va avec. Et le voilà, qui le monte dans son salon, puis qui pagaie des heures sur son toit en rêvant de grandes traversées en solitaire. Mais c'est loin d'être un aventurier. Il va finir par larguer les amarres avec l'idée d'atteindre la mer. Personnellement, je me suis laissée moi aussi porter au fil de l'eau dans ce voyage complètement fantaisiste avec ses petits imprévus et ses rencontres. C'est lent, c'est reposant, c'est burlesque aussi. C'est un film qui m'a donné l'envie de musarder, de prendre mon temps et de profiter des petits bonheurs de la vie. Je vous propose de le regarder dans une chaise longue, les doigts de pied en éventail, avec une boisson bien fraîche. Allez, laissez-vous rêver.
Comme un avion sans air.
Mais quelle surprise à la con.
Michel, il y a tout le monde, il y a tous tes amis, il y a même Choupette et Félix.
Est-ce que ça va, Michel?
Je vais partir.
Partir?
Quand? Où? Pas loin, mais pour être dépaysé.
Avec tout ce matériel?
Oui, j'accorde une grande importance au matos.
C'est bien, hein? T'es prêt, là, hein?
J'ai super chaud, en fait. Darling, you can't love one.
Darling, you can't love one. Tu viens de loin avec ton canoë?
Et tu vas où? Le plus loin possible.
Ce voyage bien reposant, je crois que Margaret va nous entraîner de l'autre côté de l'Atlantique, à travers les grands espaces des États-Unis. Alors Margaret, de quel film tu vas nous parler?
Alors, pour moi, le film que j'adore, c'est Thelma et Louise. Oui, je sais, il date de 1991, mais c'est un film culte qui a lancé la carrière de Brad Pitt dans les longs métrages. Avec le confinement, même un peu moins strict, j'ai envie de voir les grands étendues, la nature de l'espace. Ce film, comme tu dis si bien Christiane, se déroule aux États-Unis, à Arkansas et les États autour. Les paysages sont immenses et désertes. C'est l'histoire de deux copines, Thelma, qui est mariée à une brute et qui est malheureuse dans sa vie de femme au foyer, et Louise, de caractère fort, qui est serveuse dans un restaurant de la ville. Leurs vies sont un peu boulot métro-dodo, un peu train-train. Louise convainc Thelma de partir toutes les deux en week-end de pêche. Sont-elles en quête d'autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dès le départ, ça tourne au vinaigre, elle s'enfonce vers l'enfer et elle découvre tout au long de l'histoire des expériences nouvelles et surprenantes pour elle et donc des réactions inattendues de leur part. C'est un film plein d'émotions, de cette amitié forte entre deux copines, très différentes mais avec des choses en commun. C'est un film à la fois triste et drôle, mais toujours sensible. En plus, on voit des paysages somptueux.
Thelma et Louise vont à la pêche.
Daryl t'a laissé partir? Je ne lui ai pas demandé. Mais il m'a tué. Je lui ai laissé une petite lettre.
Thelma et Louise vont plonger dans l'enfer.
Moi, ce sera un petit bonbon sec et un petit Coca-Cola avec, s'il vous plaît.
Thelma, à quoi? Il faut savoir. Est-ce que je me fais un week-end, oui ou non?
Thelma, non mais tu débloques?
Je suis l'enquêteur Al Slocum des services de police.
Je veux que tu rappliques Dardar à la maison.
Comme vous le savez, on vous a mis sur écoute.
Quoi?
Thelma, qu'est-ce qui s'est passé?
Vous vous enfoncez au fur et à mesure que vous avancez. Vous voulez bien retourner dans votre voiture, je vous prie?
Je vous jure, il y a trois jours, ni elle ni moi, on aurait su monter cette arnaque. Mais si vous connaissiez mon bonhomme, vous comprendriez tout de suite.
Quoi?
Louise, flingue sa radio.
Ouais.
La radio de police, Louise.
Oh oui.
Je l'ai eu.
Thelma et Louise.
Ça te plaît les vacances? C'est ce qu'il dit. On boira des margaritas au bord de la mer, mamacita.
Restons toujours aux États-Unis avec Martine qui nous propose un voyage de New York au Montana pour une quête tout autre. Prenons à nouveau une grande bouffée de nature.
Après un terrible accident de cheval, une adolescente se retrouve handicapée. Sa meilleure amie meurt et son cheval devient fou. Il faudrait la battre. La jeune fille est complètement effondrée et perd le goût de la vie. Sa mère décide alors de contacter un dresseur de chevaux pratiquant une méthode douce et entreprend un difficile périple jusqu'au Montana avec sa fille et l'animal traumatisé. Dans un décor naturel somptueux, la prise en main de l'animal par le chuchoteur, la découverte d'une réalité de vie si éloignée de la leur, bouleverse complètement la mère et la fille. Le lent apprentissage pour apaiser l'animal et lui redonner confiance va de pair avec la rédemption de l'adolescente déchirée et l'épanouissement de l'amour entre sa mère et le dresseur. Chaque instant est d'une très grande et très belle intensité.
Un jour, quand il avait 2 ans, il a disparu. On l'a retrouvé dans l'écurie. Il dormait entre les sabots d'un énorme percheron. Il a dit que le cheval le protégeait. Personne n'aurait pu le convaincre du contraire. J'ai lu dans un article que vous aidiez les propriétaires qui ont des problèmes avec leurs chevaux.
Non, j'aide les chevaux qui ont des problèmes avec leurs propriétaires.
On a de la visite, c'est normal ? Monsieur Booker ?
Oui. Oui.
Je voudrais que vous examiniez mon cheval.
Je sais pas si je peux faire quelque chose, mais je veux bien essayer, si tu m'aides. Quand je travaille avec un cheval, j'aime bien connaître son histoire. Alors pour comprendre ce qu'il a dans la tête, il faudrait vraiment que je sache ce qui s'est passé cette nuit-là.
Ça vous arrive d'avoir peur de quelque chose, Tom Booker ?
Pour terminer, voyons une nature beaucoup plus intime. Changement de continent et changement complet de style avec un animé japonais du grand Miyazaki, Mon voisin Totoro. Un professeur d'université et ses 2 filles de 4 et 11 ans s'installent dans leur nouvelle maison dans la campagne japonaise. En explorant les alentours, la fillette de 4 ans rencontre Totoro, un esprit de la forêt qui ressemble à une espèce de gros nounours. Ce personnage fantastique est accompagné de 2 de ses semblables, le petit Chibi Totoro qui est blanc et le moyen Chu Totoro qui est bleu. La petite fille va partir sans arrêt à la recherche de Totoro qui va lui faire découvrir ses impressionnants pouvoirs et son entourage peu habituel. Mon voisin Totoro aborde les thèmes chers à Miyazaki, à commencer par la sauvegarde de la nature. Et les dessins nous montrent une végétation splendide et une faune plus ou moins fantastique, plutôt plus que moins d'ailleurs. Personnellement, j'adore le Chabus. C'est une fable merveilleuse, pleine de rêves d'enfants, qui nous montre aussi une nature belle, simple et protectrice. C'est beau, plein de tendresse et de poésie. C'est un film qui m'a laissé un goût de bonbon sur la langue. J'avais envie de sortir chercher dans mon jardin pour voir si par hasard il n'y aurait pas un Totoro caché derrière un buisson. Bon bref, c'est un film à regarder en famille, mais ce n'est pas que pour les enfants, c'est aussi pour les adultes qui ont du cœur.
Yeah.
Notre rubrique cinéma est terminée pour ce mois. J'espère qu'elle vous a fait rêver et qu'elle vous a donné des idées pour patienter en attendant la réouverture des cinémas.
Allô ? Comment ça se passe le confinement pour vous ?
Bonjour, je suis Anya, j'ai 53 ans et je suis prof à Berlin. Les écoles ont fermé déjà avant le confinement, d'un jour à l'autre. Je me suis donc retrouvée à la maison, mais appréciée par moi, car par l'obligation de me lever tôt le matin et prendre le métro bondé, et j'ai la possibilité d'expérimenter de nouvelles formes d'enseignement. Mais en même temps, les amis à distance et tout est fermé. On s'est donc mis sur les réseaux sociaux et les visioconférences, comme tout le monde, je pense. Et heureusement, ici à Berlin, nous avons le droit de sortir le temps voulu à l'endroit voulu pour faire du sport. Je me suis donc mise au jogging, au parc, et j'ai observé les oiseaux dont j'ai appris les noms et les chants. Quelques cafés ont commencé à proposer des cafés to go et avec les amis, on s'y est retrouvés au même moment pour prendre des cafés sur des bancs publics. Ce genre de réunion n'est pas autorisé, mais toléré par la police, tant qu'on respecte la distance sociale. Donc, tout va bien pour moi et je me considère même chanceuse en ce moment, qui est quand même un moment difficile pour plein de personnes. Un bonjour de Berlin.
Bonjour, je suis Clémentine, j'ai 31 ans. Je vis à l'île Maurice et je suis enseignante dans une école française. Donc à l'île Maurice, nous sommes confinés depuis le 20 mars. Donc tout est fermé, uniquement les services essentiels sont ouverts. Et l'accès aux magasins alimentaires est très, très limité en termes de jours et d'horaires. Voilà. Donc, ce confinement m'a permis de me recentrer sur ma famille, sur mon foyer. J'ai eu la chance de mettre au monde mon deuxième enfant pendant le confinement. C'est donc entourée de mon premier enfant et de mon mari que j'ai attendu la venue de cet enfant. Et c'est ensemble aujourd'hui que nous prenons le temps de construire ce nouveau foyer familial à quatre. C'est un temps unique qui ne nous est habituellement pas vraiment permis de prendre, en tout cas dans ces conditions-là, et aussi bien entourée. Donc je mesure aujourd'hui l'importance de la cellule familiale et de ce foyer et du temps précieux dont nous avons besoin pour se construire ensemble et vivre pleinement ensemble.
Malade, toi, seul peut me guérir.
L'ail est sans aucun doute l'un des aliments et condiments les plus recherchés et appréciés internationalement. Il est présent dans de nombreuses cultures culinaires à travers le monde grâce à ses nuances.
Comme chaque soir, je rentre chez moi toute seule. C'est à cause, je suppose, de l'odeur de ma gueule, mais je vous assure, je suis pas triste tout, car de toute façon, moi j'ai du goût.
Je vais vous parler de l'ail que je mets dans une grande partie de mes préparations culinaires. L'histoire de cette plante à la saveur marquée suggère incontestablement ses vastes qualités en matière de santé. Les historiens de la médecine ont identifié plus de 100 utilisations autres que culinaires. Les Égyptiens en donnaient aux bâtisseurs de pyramides pour décupler leurs forces et prévenir la dysenterie. Les Européens en mangeaient pour se protéger de la peste. Pendant les deux guerres mondiales, les médecins l'utilisaient sur le front pour désinfecter les plaies. Cette plante est aussi employée pour traiter les infections fongiques et l'hypertension, sans parler du rhume et de la toux. On lui prête même des propriétés aphrodisiaques. Il est clair que l'ail est une plante médicinale qui mérite d'être prise en considération et qui peut, dans certains cas, rivaliser avec les médicaments classiques. Après l'ingestion de l'équivalent de 6 gousses d'ail frais, il pourrait ainsi être aussi efficace que l'aspirine pour fluidifier le sang et prévenir la formation de caillots sanguins. L'ail cru est plus efficace sur le plan médicinal, car la cuisson inhibe la formation du composé actif le plus important, l'allicine, et élimine certaines des autres substances bénéfiques. Pour débarrasser votre haleine de l'odeur désagréable de l'ail, mâchez quelques brins de persil après le repas.
Le goût de l'ail, c'est le meilleur pour moi. L'ail, c'est le sel de la vie. L'ail, c'est du costaud. Et même si je pleure,
Afrique. J'ai choisi de vous parler de girafes, d'antilopes et d'acacias. Ça m'a été raconté par des guides de safari en Afrique du Sud. Et au départ, ça ressemble vraiment à une légende. Mais les recherches que j'ai pu faire après confirment la véracité de cet incroyable pouvoir de la nature.
savane, les feuilles d'acacia font un délicieux repas pour les girafes et certaines antilopes. Et pourtant, ces arbres ne sont pas complètement dépouillés de verdure après le passage des troupeaux. Surprenant, non ? Eh bien, les arbres ont un moyen de défense infaillible. Les feuilles d'acacia contiennent une substance chimique, le tanin, qui est sans danger pour les animaux en temps normal. Mais quand un arbre est trop sévèrement brouté, le taux de tanin de ses feuilles augmente brusquement en les rendant comme ça peu appétissantes, et puis même ensuite indigestes. C'est très rapide, c'est une question de minutes. Et voilà comment l'arbre se débarrasse de ses brouteurs trop nombreux. Mais l'acacia fait mieux. Il prévient ses voisins. Il leur adresse un message sous forme d'éthylène. L'éthylène, c'est une des molécules les plus simples qui existent. Et ce message d'alerte, qui est transmis par le vent, est capté par les feuilles des acacias voisins et déclenche chez eux une très forte élévation des teneurs en tanin. Les brouteurs se sont donc adaptés. Ils se déplacent face au vent vers des acacias qui sont encore ignorants de leur présence. Et ils changent d'arbre dès que les feuilles deviennent trop amères. La nature est vraiment trop bien faite. Mais ce qui n'est pas naturel, c'est l'existence de parcs clôturés qui vont limiter le déplacement des animaux. Et dans un de ces parcs, des dizaines d'antilopes sont mortes, intoxiquées par le tanin. Les acacias étaient trop peu nombreux et donc trop agressés. Le taux de tanin de leurs feuilles s'est élevé jusqu'à une dose mortelle. Comme dans beaucoup d'autres cas, la libre circulation des animaux sauvages est une des conditions de leur survie.
Projet Génération, c'est avant tout un spectacle, puis une émission radio, et toujours un rendez-vous artistique et d'expression réalisé dans le cadre de l'association Artis. Il est financé par le Conseil départemental de Haute-Garonne et la Conférence des financeurs, en partenariat avec Radio de la Save, bien sûr. Nous invitons nos 60 ans et plus à rejoindre l'aventure de Génération.